France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
André Malraux est surtout connu aujourd'hui comme celui qui fut plusieurs fois ministre et comme l'homme politique qui créa le ministère de la Culture. Mais il fut surtout et d'abord un intellectuel, un aventurier, un militant et un combattant antifasciste, un résistant et un écrivain qui obtint le prix Goncourt en 1933. Malraux a mené une vie romanesque et passionnée par les arts. Jeune homme, il avait été arrêté et emprisonné pour en avoir volé un encore. Il avait quitté le lycée bien avant de passer un baccalauréat, qu'il n'eut jamais, pour fréquenter les libraires, les expositions, les concerts et les théâtres, et il fut l'ami de tous les artistes et écrivains de son temps. Cet homme atypique, génial et mythomane plaisait naturellement beaucoup aux femmes. À son époque, la politique n'était pas encore devenue un sous-produit de la morale et du commerce où l'on faisait carrière dans la gestion, mais c'était au contraire une passion. En 1967, il venait tout juste de publier ses antimémoires. Pierre de Boisdaeffre, qui était alors directeur de la radiodiffusion française à l'ORTF, enregistra une série d'entretiens avec André Malraux, dont nous diffusons ici les deux premiers.
À l'occasion de la publication des Antimémoires, entretien de André Malraux avec Pierre de Boisdaeffre.
André Malraux, après 10 ans de silence et 9 ans d'exercice du pouvoir, vous revenez à la littérature pour publier un livre anti-mémoire. Mais pourquoi ce titre anti-mémoire ?
Naturellement, par opposition à la mémoire. D'une façon générale, les lecteurs ont pris l'habitude de penser que mémoire signifie d'abord récit chronologique allant de la jeunesse à la mort et d'autre part confession. Les mémoires confessions ont eu surtout leur importance en un temps où la psychanalyse n'existait pas. Non pas que la clé soit dans la psychanalyse, ce qui n'est pas en question, mais parce que je pense à ce que Rousseau avait tellement mis en lumière lorsqu'il disait « j'entreprends quelque chose qui n'a pas eu de prédécesseur, qui n'aura pas de successeur », nous ne pensons plus du tout à quelque chose de semblable aujourd'hui. Alors, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose d'aussi différent de ce qu'on appelait mémoire, qu'ont été les mémoires d'outre-tombe de leur temps. J'insiste un instant là-dessus, parce que il semble qu'on ne se rende pas compte maintenant à quel point Chateaubriand a surpris. Reprenez les mémoires d'outre-tombe que vous connaissez certainement très bien. Vous constatez d'abord qu'il est relativement chronologique. Relativement seulement. Les livres sont ordonnés absolument comme il lui plaît. Ce qui est chronologique, c'est qu'évidemment, il commence par Combourg et il finit par Ouvrez-vous, portes éternelles. Mais pour le reste, il fait bien ce qu'il veut. D'autre part, quant aux confessions, il ne dit même pas que Pauline de Beaumont était sa maîtresse. Et tout ce qui se passe avec Madame Récamier, c'est d'une liberté absolue. Bien. Si on compare Chateaubriand avec son rival, il écrivait contre Rousseau, bonsoir. Il est absolument évident que c'est écrit dans une extrême liberté. Pour moi, je suis contre la chronologie. D'abord, il faudrait savoir pourquoi notre temps tout entier est contre la chronologie. Pourquoi le roman qui a été si longtemps chronologique est aujourd'hui de moins en moins chronologique. La question a certainement des réponses extrêmement profondes. Dans l'ordre des mémoires, je crois que la chronologie n'est pas la vérité. Si je veux faire un récit de ma vie, ce qui est essentiel échappera absolument. Alors, il s'agit naturellement pour moi d'une certaine chasse. Je ne peux attraper mon gibier qu'avec des méthodes déterminées. Ces méthodes sont contre la chronologie. À partir du moment où je ne vise ni la chronologie, ni la confession, je ne peux créer qu'un malentendu si j'appelle mon livre mémoire. Et comme d'autre part, il y a du bon dans l'agressivité, parce que ça permet tout de même d'obtenir des résultats extrêmement rapides quand on y tient, je l'ai appelé anti-mémoire.
Mais vous dites vous-même qu'il y a deux types de confessions bien différentes. Il y a le récit d'une action. disons le général de Gaulle dans les mémoires de guerre, ou la guerre des Gaules de César. Oui, le Retz. Mais vous avez également la figure que l'on essaye, à travers un livre de souvenirs, et de souvenirs souvent reconstitués, d'imposer à l'histoire. Or, il me semble que dans les antimémoires, ce n'est ni l'une ni l'autre de ces méthodes qui vous intéresse essentiellement.
Ah, sans aucun doute, vous avez parfaitement raison. Ce qui m'intéresse essentiellement, c'est que peut-on faire jaillir de la rencontre du destin. Prenons le destin comme un silex. Je vais prendre un exemple pour ceux qui l'auront lu, qui est absolument clair. Toute la grande scène de l'Inde est absolument inséparable de la scène des chars. Si les hommes des chars, qui représentent l'humanité la plus simple en face de la mort, n'avaient pas la résonance d'une humanité tout autre en face de la transcendance absolue, et réciproquement, il est bien évident que le livre n'aurait pas la même nature.
Mais ce contrepoint de ce que vous appelez, il me semble, les millénaires furtifs et de l'instant, vous l'aviez déjà dans Les Noyers de Ladenburg, c'est un contrepoint de romancier.
Si nous mettons à part Saint-Augustin, tous les grands livres de mémoire sont des livres de romancier. En définitive, les dons de Saint-Simon sont des dons de romancier. Les dons de romancier de Chateaubriand sont infiniment plus grands dans les mémoires d'Outre-Tombe que dans ses romans. Et en définitive, ce qui fait que les mémoires ont cette existence particulière qui les insère dans la littérature, au lieu de les laisser tout simplement entre les mémoires des généraux et les mémoires des ministres des Affaires étrangères, c'est très précisément un procédé que j'appellerais sans aucun doute littéraire. Il s'agit tout de même toujours de faire une relation entre une réalité banale et quelque chose qui transcende cette réalité, quelque chose qu'on donne au mot transcender. Et dans ce cas-là, j'ai le sentiment tout à fait net que l'élément art joue un rôle décisif. Pour Chateaubriand, c'est criant, n'est-ce pas ? Mais n'oublions pas qu'après tout, les confessions modernes les plus célèbres sont celles de Rousseau, qui était bien un romancier, et d'autre part, penser à quel point les réussites sont d'ordre romanesque, à quel point la relation avec Mme de Varens, c'est meilleur que la nouvelle Héloïse.
On pourrait d'ailleurs discuter du fait de savoir si Rousseau est réellement un romancier.
Mais on ne peut pas ne pas se rendre compte qu'il y a entre la façon dont Rousseau écrit, qui est extrêmement près d'une vérité traitée comme fiction, et la façon dont écrit, disons, le maréchal Foch, une différence de nature.
Oui, mais il y a tout de même une question que vos lecteurs se poseront et pour laquelle beaucoup se jettent. Déjà sur les antimémoires, c'est une question à laquelle vous n'avez jamais voulu répondre, dans la mesure où vous avez toujours dédaigné votre biographie, vous avez toujours répété « ma biographie ne m'intéresse pas ». Ces gens-là aimeraient savoir qui est Malraux. Et est-ce que vous ne répondez pas au moins à une autre question, cette question que les anges, selon les gnostiques que vous citez, posent à chaque mort, « d'où viens-tu ?»
Nous sommes dans la situation où était Proust lorsqu'il a publié du côté de chez Swann. Il y avait 2 volumes et il y avait 5 volumes derrière dans son esprit. Il envisageait qu'il donnait les 2 premiers de 7, mais il savait bien, et en définitive, la critique qui a été intelligente, il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a eu tout de même, a très bien compris qu'elle était sur une sorte de point de départ. Moi aussi, je suis sur une sorte de point de départ. Pour la biographie, j'ai dit « je ne m'intéresse pas » et je pense que si je voulais faire de la biographie, je ne pourrais plus faire ce qui est absolument essentiel à mes yeux, c'est-à-dire le livre du destin. En ce qui concerne le « d'où viens-tu », ça c'est tout à fait autre chose. Je crois au contraire que la réponse sera donnée simplement par l'étendue.
Vous aviez déjà donné un commencement de réponse dans « Les Noyers de l'Altenburg » et il me semble que les antimémoires sont peut-être le plus beau de vos livres depuis « Les Noyers ». Dans « Les Noyers », vous disiez aussi « pour l'essentiel, l'homme est ce qu'il fait ». Alors que pour d'autres, l'homme est ce qu'il cache, un misérable petit tas de secrets.
Oui, n'oubliez pas que ces phrases dans l'Altenburg sont des phrases de personnages. Parce qu'il y a quelque chose que tout le monde semble oublier, c'est l'homme est ce qu'il fait, c'est pas de moi, c'est à Hegel. Au moment où c'est dans le livre, c'est la réponse irritée de quelqu'un qui est un homme d'action à qui on est en train de présenter les choses les plus profondes comme si elles dépendaient uniquement des bibliothèques. Je prendrai le dialogue à mon compte, mais je ne prendrai certainement à mon compte ni la première des réponses, ni la seconde.
Ce qui frappe dans votre œuvre, c'est que vous avez un style d'interrogation. Vos romans sont des romans d'interrogation de la condition humaine. Pour vous, ce qui paraît compter le plus, ce ne sont pas les certitudes que vous découvrez, certitudes d'ailleurs fugitives, mais bien l'interrogation permanente que vous adressez à l'homme à travers l'action, à travers la guerre, à travers la contemplation artistique.
Incontestablement, je suis persuadé que les réponses qui nous paraissent les plus importantes, dans toutes celles qui nous ont été données par les plus grands philosophes, je mets les philosophes en ce moment hors de la foi. Je veux dire, je ne parle pas de saint Thomas, le cas serait différent. Seulement, la réponse de saint Thomas, ce n'est pas la réponse de saint Thomas, c'est du Christ. Les réponses des grands philosophes n'ont pour nous que très très peu d'importance. Ils vivent encore pour nous essentiellement par leurs questions. Pour un philosophe très proche comme Nietzsche, c'est tout à fait criant, mais pour un philosophe très éloigné comme Platon, c'est tout à fait criant aussi. Regardez comme vous aurez de la peine à reprendre n'importe lequel des grands dialogues en vous disant, eh bien voilà où ça aboutit. D'abord, c'est souvent assez discutable, n'est-ce pas ? Mais ça vous est assez égal, alors que la puissance interrogatrice, nous communions avec elle.
Les portraits qui frapperont immédiatement le public, me semble-t-il, dans vos antimémoires, sont ceux des grands contemporains que vous avez rencontrés. Et le premier de ces personnages, qui sont presque des personnages de la tragédie grecque, c'est le général de Gaulle. Une phrase que vous rapportez m'a frappé. Lorsque le général, en 1944, vous dit d'un ton neutre, comme s'il eût parlé de l'Empire romain, « Ne vous y trompez pas, la France ne veut plus la Révolution, l'heure est passée. » Aujourd'hui, que pensez-vous de cette réponse ?
Je pense que c'est encore plus vrai. Il faudrait bien préciser ce qu'il a voulu dire, n'est-ce pas ? Parce que là aussi, ce n'était pas un exposé, c'était une phrase isolée. Il avait voulu dire, à mon avis, ceci. Nous sortons d'une époque, la Libération, dans laquelle, selon la phrase de Hamlet, n'est-ce pas, le temps était hors des gonds. Bien. Une sorte d'immense espoir après l'occupation avait paru et avait semblé en quelque sorte le gage d'un changement fondamental. Or, une vraie révolution, il faut se méfier du mot révolution en français, parce que comme nous lui avons donné un sens prestigieux, nous avons tendance à le garder, et ça finit par être tout simplement le synonyme du mot espoir. Alors là, c'est tout de même un peu exagéré. Une révolution, c'est d'abord la prise du pouvoir par une classe déterminée, et en définitive, c'est quelque chose qui est lié à la guerre civile, que la guerre civile ait lieu entre les masses ou qu'elle ait lieu entre les politiques. Le général de Gaulle avait, me semble-t-il, le sentiment que tout ce prix, qui est le prix de la révolution, eût été payé 6 à 8 mois plus tôt, et que le pays n'était plus prêt à le payer, que quelque chose de tout à fait autre était en train d'entrer en ligne, qui était « Et maintenant, comment est-ce qu'on s'arrange avec la vie ?» Alors, la phrase est extrêmement courte, et par conséquent, on peut la nourrir de tout ce qu'on voudra, mais pour qu'elle soit claire, je crois que quand il a dit « La France ne veut plus la révolution », il voulait dire quelque chose qu'il m'a dit plus tard, en langage tout à fait précis, « Le problème du niveau de vie est en train de devenir le problème capital de l'Occident tout entier. » Et il me disait ça à propos de l'Angleterre, quand certains problèmes anglais devenaient très très brûlants, et où je m'étonnais qu'un pays qui a eu à la fois le sens civique et la grandeur que nous connaissons à l'Angleterre entra dans un certain nombre de difficultés mineures. Et il m'avait dit, c'est parce qu'à l'heure actuelle, le niveau de vie est en train de devenir le problème capital. Alors, allons encore un cran plus loin. La révolution, pour les Français, est essentiellement une révolution morale. D'une part, il y a la révolution française avec son cortège prestigieux. D'autre part, il y a la révolution russe et il y a aujourd'hui le marxisme. Mais le marxisme en France est énormément un héritage de la révolution française. En définitive, c'est parce que la condition du prolétariat est injuste que la révolution est souhaitable. En fait, nous commençons à voir dans un certain nombre de pays naître toute une idéologie, et ça n'est pas d'hier, ça commence avec Pareto. C'est facile de dire que Pareto était fasciste, l'essentiel de sa pensée n'est pas fasciste. Une pensée commence à naître qui pose que les problèmes moraux seront nécessairement désormais des problèmes qui ne détermineront plus l'histoire. Et alors ça, c'est je crois ce qui était aussi au-dessous de la phrase du général de Gaulle. Ça n'est plus à travers la révolution que le destin historique des pays va se développer maintenant, c'est à travers d'autres données. Alors, aurait-il dit à l'époque, en particulier le niveau de vie, je ne le crois pas. Je crois que le niveau de vie est devenu une donnée très importante pour lui plus tard. J'ai été très frappé de voir combien mes amis les intellectuels sont des gens pour qui la politique est toujours un problème de morale, alors que la politique pour le général de Gaulle, c'était avant tout de savoir comment quelque chose qui s'appelle l'État va coordonner les forces de quelque chose qui s'appelle la nation, de façon à obtenir le meilleur résultat.
Mais il est tout de même frappant que toute l'action du général de Gaulle, et sans doute aussi la vôtre, n'a pas porté uniquement sur le niveau de vie. Vous rapportez vous-même une discussion au Conseil des ministres où il fait suivre l'exposé du ministre du ravitaillement d'une réflexion. Il faudra bien que les Français s'habituent à s'occuper d'autre chose que des harangueurs.
J'ai dit il y a probablement une quarantaine d'années, on ne peut pas faire de la politique avec de la morale, mais on ne peut pas en faire sans. Je pense que les deux choses sont vraies. Seulement, l'ensemble des données absolument non morales de la politique est récent. Autrefois, c'était les intérêts. Jadis, on n'eût jamais accepté de poser la question comme ça, de la même façon que si on avait dit à César « Oui, mais il y a tout de même la justice nécessaire pour les esclaves, qui représentaient donc le prolétariat », il aurait répondu « Il y a la société protectrice des animaux ».
Mais vous dites vous-même dans tout votre livre que la révolution, c'est une question de passion.
C'est ça que le général voulait dire, la passion s'en va.
À l'occasion de la publication des Anti-Mémoires, entretien de André Malraux avec Pierre de Boisdeffre.
Parmi les grandes figures que vous évoquez dans vos Anti-Mémoires, il y a Nehru, il y a Chuen Lai, il y a Mao Tse-Tung. À travers les souvenirs de Yénan, ceux de la longue marche, il y a une question qu'on a envie de vous poser. Est-ce que cet effort, presque désespéré, cet effort poursuivi contre le monde entier, est-ce qu'il a vraiment aujourd'hui une valeur universelle ?
Lorsque je suis en Chine, j'ai le sentiment que psychologiquement, il y a des éléments qui ne sont pas les anciens éléments exotiques, la fameuse Chine des mandarins. Il y a des éléments qui ne peuvent être transposés nulle part. La révolution dite culturelle, car elle s'appelle en chinois révolution culturelle prolétarienne, et l'accent est sur prolétarien tout de même, a été extrêmement mal expliquée ici parce que, en règle générale, ceux qui ont vu n'ont pas été très instruits par ce qu'ils ont vu, et ceux qui connaissaient la question pour avoir suivi le développement de la Chine, en France, sont extrêmement peu nombreux. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il y a cette manie d'employer toujours le mot culturel là-dedans ? Il semble que la culture n'ait rien à y voir. C'est pourtant pour une raison excessivement forte, c'est que, sans aucun doute, dans l'esprit de Mao, l'essentiel est, il y a une individualisation en Chine qui est restée beaucoup trop forte, nous ne pouvons faire la véritable épopée que dans une désindividualisation complète, et j'appelle révolution culturelle ce qui consiste à détruire ce qui reste d'individus et ce qui, le cas échéant, avec n'importe quel révisionnisme, augmentera les caractères de l'individu. Mao dirait, il est faux de dire que si on donne des deux chevaux à tous les Chinois, révisionnisme, les Chinois deviendront pour autant plus proches des Russes et plus prêts de s'occuper de leur niveau de vie, etc. Pas du tout, dira-t-il, si on arrive à créer un état d'esprit dans la Chine entière, semblable à celui de l'armée, eh bien, en définitive, nous pouvons donner les deux chevaux sans danger, car nous pouvons donner des motocyclettes à tous nos soldats. On oublie trop ici que Mao a réussi d'une façon éclatante les communes populaires. Les obstacles étaient immenses, mais la réussite est éclatante. Les Chinois ne viennent pas d'un individualisme à l'occidental. Autrement dit, chaque fois que nous reprenons ce point de vue de Mao, nous avons tendance à nous dire, prenons un occidental et mettons-le dans cette situation, il la trouvera intolérable. Mais si on donnait un bol de riz par jour aux Français, ils trouveraient ça intolérable aussi. Quant aux Chinois, jusque-là, ils mangeaient les écorces. Il y a une tentative de Mao qui est l'une des tentatives psychologiques les plus considérables que l'humanité ait jamais tentée. Il veut véritablement faire ce qui a été dans certaines théories communistes, mais qui n'a jamais été appliqué, parce que Staline a voulu faire une super discipline, il n'a pas voulu faire une super désindividualisation. Et d'autre part, l'anarchie, au contraire, aboutit à l'individu. Il y a donc là quelque chose d'absolument considérable. Est-ce que c'est universalisable ? Ça, je vous dirais, répondez vous-même, c'est une réponse assez difficile. Je crois que j'ai raconté dans le livre, sinon peu importe, qu'un moment assez dramatique de la conversation avec Mao, je lui dis, voyons, vous qui étiez toujours un marxiste, vous savez aussi bien que moi à quel point le marxisme posait la nécessité de fonder la révolution sur le prolétariat combattant. Bon, vous avez connu Borodine qui acceptait encore complètement cette idéologie. Il aurait pu en accepter une autre, c'est entendu, mais c'était celle-là la sienne. Et quant aux adversaires trotskistes, ils avaient également l'idéologie que la révolution, c'est le prolétariat. Un jour, un garçon qui n'avait pas même 30 ans, qui jouait un rôle infime dans le parti, qui est vous-même, s'est mis à dire « la révolution ne sera pas prolétarienne, la révolution sera paysanne ». Ce jour-là, vous aviez tout le monde contre vous, et c'est à cause de ça que vous avez eu Staline contre vous pendant si longtemps. Est-ce une pure idéologie ou est-ce un événement ? Qu'est-ce qui vous a amené à oser dire « nous refusons tout l'héritage marxiste traditionnel et nous allons fonder la révolution sur le combat paysan » ? Et alors, il m'a répondu ceci. « Quand j'ai quitté Shanghai au moment de la répression, chacun de nous a essayé de voir ce qu'il pouvait devenir. Certains sont allés à l'étranger. Pour moi, ce qui était le plus intelligent, c'est de rentrer dans mon village. Mon village était à 3000 km. Personne ne savait du tout quel avait été mon rôle dans le communisme à Shanghai. Il n'y avait aucun danger, c'était le plus raisonnable. Alors je suis parti pour mon village et j'étais obligé d'arriver à pied. Quand je suis arrivé à 6 km, il n'y avait plus une écorce aux arbres jusqu'à 4 mètres d'eau. La situation était telle que les malheureux hommes étaient obligés de manger les écorces des arbres. Inutile de vous dire avec quelle dysenterie et quelle maladie, etc. Bon, dans ces conditions-là, on pouvait obtenir de meilleurs résultats en donnant une pique à un paysan qu'en donnant une pique à un coulis qui, en définitive, avait toujours à Shanghai vécu infiniment mieux que n'importe quel paysan. L'anecdote symbole a un très grand poids parce qu'elle répond à sa manière à votre question de tout à l'heure. Les gens qui mangeaient les écorces n'en demandent pas beaucoup. Et de même qu'ils sont satisfaits du bol de riz, ils sont satisfaits de cette sorte de lien extrêmement profond qui peut s'établir entre eux. Et sans individualité, tout à fait autrement, une certaine chaleur humaine que je ne peux pas définir, parce que nous n'en avons en Occident absolument aucune équivalence. Il faudrait rêver un petit peu à l'armée mythique, enfin ce qu'on racontait avec beaucoup de bourrage de crâne, de l'armée du début de la guerre de 14. Il est bien entendu que les hommes combattaient avec très, très peu d'individualisation, et que néanmoins la chaleur humaine qui les unissait était assez grande. Ce qu'on oublie toujours à tort, c'est que l'armée chinoise est en définitive une armée d'un très petit nombre d'hommes, n'est-ce pas ? Il y a 2 800 000 hommes. Or, s'ils faisaient une mobilisation à la nazie, ils seraient 80 millions. Lorsqu'on tente une commune populaire, si on la fait diriger par n'importe quelle deuxième classe, le deuxième classe en question est capable de la diriger. Donc, on peut concevoir quelque chose de tout à fait désindividualisé à la base, avec des masses colossales, et des cadres qui sont en partie les cadres politiques, les gardes rouges qui s'agitent, et puis l'armée, elle, est excessivement sérieuse qui encore.
En lisant le chapitre des anti-mémoires qui relate vos entretiens avec Mao et qui explique en effet toute la théorie du poisson dans l'eau et le prodigieux ralliement non seulement des paysans mais des soldats de Chiang Kai-shek à l'armée populaire, on croit d'ailleurs lire un chapitre de l'espoir. Enfin, c'est autre chose, mais c'est la même chose, c'est la fraternité. Est-ce que vous avez toujours le sentiment que la fraternité, c'est beaucoup plus important que la liberté et que c'est beaucoup plus important que l'égalité ?
Je ne sais pas si c'est plus important, ce dont je suis absolument sûr, c'est que c'est par la fraternité que passe la révolution. Ou bien c'est la révolution des avocats, comme disait Marx, et dans ce cas-là, c'est un ensemble de réformes ou de transformations, au mieux c'est le New Deal. Mais à partir du moment où la réalité révolutionnaire entre en jeu, sa matière première c'est la fraternité. Je ne conçois même pas une révolution sans fraternité.
Vous ne parlez pas de la famille chinoise à Mao. Or, est-ce que ça n'est pas la plus grande révolution de la Chine actuelle que d'avoir supprimé la famille?
Ce qui est le fait nouveau, c'est pas la disparition de la famille, c'est que la famille ne soit plus définie par les liens du sang. Ce qui, naturellement, est excessivement important, ou plutôt le serait si on gardait le culte des ancêtres. Et il a pu réussir l'opération parce qu'il a supprimé le culte des ancêtres, puisque avec les ancêtres, c'était les liens du sang, inévitablement. La Chine n'attache pas d'importance à ses morts. Enfin, la vieille phrase fameuse, il n'y avait plus de morts que de vivants. Aujourd'hui, c'est à peu près fini. Ensemble, on peut dire Mao a réussi à faire une nouvelle famille qui n'est pas la famille parce qu'il a réussi à faire que cette famille ne soit pas héritière de ses ancêtres.
Mais est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour dire qu'il a réussi ? Je viens de parcourir une partie de l'Asie islamisée. Ce qui me frappe, c'est la résurrection de l'islam dans des pays où il avait été, je ne dirais pas déraciné comme en Turquie, mais enfin, où il était bien près de l'être.
L'islam est une religion.
Eh bien, est-ce que le culte des morts n'en est pas une autre ?
Je ne crois pas. Vous avez tout à fait raison de mettre le culte des morts dans la religion, parce que les Français croient toujours qu'il n'y a de religion que des dieux. Or, il y a au moins des religions, des dieux et des morts. Le retour des morts à l'intérieur de la Chine ne changerait pas beaucoup le maoïsme. Je vois très bien une sorte de culte romain reparaissant et ne nuisant pas à ce qu'a tenté Mao. Maintenant, je pense, contre un très grand nombre d'excellents esprits, que c'est une erreur occidentale de supposer qu'à l'heure actuelle nous allons au retour des seigneurs de la guerre, que tout ça va finir par le plus grand désordre. Il est très vrai que Mao ne contrôle directement que 7 provinces dans lesquelles la révolution culturelle est pratiquement faite. Mais en définitive, c'est à mes yeux une erreur complète de croire que les autres joueront contre lui. L'homme qui a fait la longue marche est encore tout à fait intact. La grande puissance qu'il avait de partir de rien et de faire ce colosse qui s'appelle la Chine est encore là et il n'y aura pas le retour au seigneur de la guerre.
Il n'y aura ni Thermidor ni le 18 Brumaire.
Je ne crois pas du tout à Thermidor tout le temps que Mao sera là. C'est pas en définitive, que veut dire Thermidor ? c'est la révolution ayant réussi, attention qu'il y a tout de même 50 ans d'écart entre les deux révolutions, la révolution ayant réussi, on admet qu'un certain nombre de problèmes de niveau de vie vont devenir des problèmes capitaux, et on admet que les biens de consommation courante vont être plus importants que les biens, en définitive, de défense nationale, car c'est de ça qu'il s'agit, ou de création d'une industrie lourde. Quoi qu'on en dise, la Chine est en train de créer son industrie lourde, n'est-ce pas ? Ils ont fait cette expérience comique, qui est l'expérience des hauts fourneaux individuels, qui n'a donné aucune espèce de résultat, mais ils ont tout de même fait aussi les aciéries de Hanyang. Quand je suis allé là-bas la dernière fois, je partais avec les journaux occidentaux qui disaient que, avec les Russes, les aciéries s'étaient arrêtées. Je suis arrivé à Hanyang avec toutes les cheminées en train de fumer. Pour qu'il puisse y avoir un thermidor, il faudrait que Mao fût tué. Il n'y aura pas de thermidor parce que les mesures qu'il prendra n'ont pas besoin d'être tellement brutales, mais néanmoins, n'oublions pas qu'elles deviennent de plus en plus brutales. Mao a employé des méthodes extrêmement brutales pour en finir avec les grands propriétaires terriens. Il n'a pas employé des méthodes extrêmement brutales, quoi qu'on en dise, au moment des sans-fleurs.
Est-ce que Mao peut garder cette prétention à l'immortalité qui est celle de tous les grands chefs révolutionnaires, car Nkrumah et Sukarno aussi se tenaient pour immortels?
On a le sentiment qu'il n'y a rien de commun. D'abord, il est en train, lui, de se désindividualiser d'une façon très curieuse. Vous avez remarqué que vous ne voyez plus un seul texte chinois depuis 3 ans, n'est-ce pas, sans qu'on vous parle essentiellement de la pensée de Mao Tse-tung. Dans les slogans, la pensée de Mao Tse-tung, le petit livre rouge, tout ça, c'est de la désindividualisation. Avant, on disait Mao Tse-tung.
Donc il n'y a rien de commun avec le culte de la personnalité.
Bon, d'autre part, tout de même, si Sukarno avait fait la longue marche, ça se saurait.
Il a quand même chassé les occupants.
Ils sont partis. Mao est la plus grande figure historique de notre époque dans le sens où l'histoire implique une accumulation de choses. Enfin, Mao, c'est le général de Gaulle qui serait Clémenceau. C'est Staline qui serait Lénine. Parce que tout commence avec lui. La révolution de 1911 n'avait pas fini par une révolution concrète, le moins du monde, c'est une révolution de juristes. Alors, il y a Sun Yat-sen quelque part dans l'Empire. Mais pour les Chinois, Sun Yat-sen n'avait pas changé les choses. Les choses ont commencé à changer avec Mao, et depuis, ça n'a pas cessé d'être lui. Alors, il a rencontré des obstacles véritablement incroyables. Il s'est battu contre une armée très puissante. Je crois que la biographie de Mao est une des biographies les plus extraordinaires du monde. D'ailleurs, vous savez qu'il le sait, il y a un des poèmes, n'est-ce pas, qui finit assez étrangement. Le chinois permet l'ironie très visible. Il fait un grand poème assez beau sur les grands conquérants de jadis, n'est-ce pas, et son dernier vers est « Mais regardez donc autour de vous ».
Vous venez d'entendre le deuxième des 3 entretiens d'André Malraux avec Pierre de Boisdeffre. Assistante de réalisation, Michel Thierry.
Ces entretiens ont été diffusés pour la première fois les 25 et 28 septembre 1967.